Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la foi, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. De plus en plus de chrétiens, notamment des jeunes, désireux d'orienter leur vie en accord avec leur foi, demandent à bénéficier d'un accompagnement spirituel. À quoi sert un accompagnement spirituel? C'est la question que je pose à mon invitée du jour, Marie-Laure Choplin, laïque, animatrice de sessions retraite et accompagnatrice spirituelle. Bonjour Marie-Laure Choplin.
Bonjour.
Alors, quelles sont les bonnes raisons pour demander un accompagnement spirituel?
C'est intéressant de poser la question en termes de bonnes raisons, parce que peut-être il y a effectivement des bonnes raisons et des raisons moins bonnes, mais il me semble que même avec les mauvaises raisons, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, les bonnes raisons, c'est ce que vous avez dit en introduction, en fait, comment orienter sa vie, comment se mettre peut-être davantage à l'écoute de Dieu, de l'Esprit, comment discerner les signes de sa présence, comment grandir dans sa foi, comment poursuivre sa route de disciple. Alors, souvent, j'observe que les personnes viennent à l'accompagnement spirituel à des moments un peu critiques, soit qu'elles aient un choix à faire, un discernement, comme on dit, soit qu'elles vivent l'expérience d'une impasse, qu'elles ont besoin de voir plus clair.
Est-ce qu'il faut, vous dites à des moments critiques, est-ce que finalement c'est à des moments où on y voit plus clair, qu'on a besoin d'avoir un soutien?
Il me semble que l'accompagnement spirituel n'est pas d'abord un soutien. De fait, je crois qu'il fait office, il a cette vertu-là de soutenir, dans le sens de soutenir le chemin de quelqu'un. Mais c'est avant tout un espace pour s'entendre mieux, pour pouvoir partager dans une grande liberté, une grande gratuité, la grande vertu de l'accompagnateur ou de l'accompagnant, on dit les deux suivant les endroits, c'est qu'il n'est pas pris dans la vie personnelle de la personne. Ce qui fait qu'il va pouvoir entendre les choses comme elles se disent et aider les personnes à contacter leur propre liberté. Parce qu'il n'est pas il n'a pas à craindre pour l'autre, il n'est pas pris dans des liens affectifs, qui fait que même quand on aime les gens, on a toujours tendance à les emprisonner quelque part. Lui est libre de ces liens-là, normalement.
De quoi parle-t-on à son accompagnateur spirituel?
Il me semble qu'on peut parler de tout. À son accompagnateur spirituel, la question, ça, à l'écoute de quoi on se met ensemble? Et c'est peut-être plus ça le point. Je ne crois pas, moi, qu'il y ait de sujets interdits et dans l'accompagnement. Et je crois même que c'est très important de ne pas faire de l'accompagnement spirituel un lieu où on ne parle que de choses estampillées spirituelles, estampillées religieuses. Parce que probablement, chose qu'on aura à apprendre dans l'espace de l'accompagnement, c'est à impliquer toute sa vie et non pas à réserver à Dieu et à la spirituelle de tout petit îlot qui nous semble digne, sacré, présentable.
Par exemple, qu'est-ce que ce serait ces îlots?
Par exemple, ce serait de ne parler que de la prière, ce serait de penser que dans l'accompagnement spirituel, la grande question, ça va être de dire « Mon Dieu, j'ai pas été à la messe dimanche dernier, est-ce que c'est grave ?» Voilà, de n'aborder que des choses en lien avec la prière, les célébrations, ou à se lamenter de ne pas être à la hauteur de l'idéal qu'on poursuit. Et en fait, d'abord, il me semble que c'est très faux. C'est-à-dire que c'est vraiment mettre Dieu dans une toute petite case, le Dieu de la vie dans une toute petite case. Mais la chose qui est peut-être encore plus gênante, c'est que du coup, nous, derrière, on est très cachés. La question, ça va être petit à petit d'entendre à même notre vie, nos liens, nos élans, nos découragements, nos émotions, pouvoir entendre où l'esprit souffle et peut-être entrer en contact, si je peux dire ça comme ça, avec notre désir profond.
Comment se entendre ensemble, on pourrait dire, se mettre à l'écoute ensemble de l'Esprit-Saint?
Je crois par la parole. C'est cette merveille de l'accompagnement spirituel qui est très atypique et très différent des autres genres d'accompagnement, si je peux dire, psychothérapeutique par exemple, c'est qu'on est trois. On est deux compagnons. On est deux disciples et on regarde ensemble vers le troisième et on essaye de l'écouter ensemble. Une des choses qui va le permettre, c'est la parole. La parole, c'est pas seulement un outil, c'est pas seulement une chose qui nous permet de livrer ou de déceler. C'est aussi une chose qui fait vie. C'est pas pour rien qu'on dit que Jésus est le Verbe ou la parole avec un grand P. C'est qu'au cœur de la parole, la vie se fait. Donc dire, c'est pas seulement mettre des étiquettes sur ce qu'on vit. Dire à quelqu'un, s'adresser, c'est aussi faire que dans l'entre-nous de l'écoute, dans cet espace-là, sans emprise, où la parole peut se dire, sans être menacée d'être récupérée ou tordue, je crois que l'Esprit du Christ fait vie dans cette parole échangée entre deux personnes.
Alors, vous mettez l'accent sur un point particulier et très important. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes plus vigilants par rapport au risque d'emprise dans l'accompagnement. Comment s'en prémunir de part et d'autre ?
Oui, je crois que c'est très important. Je crois que c'est très important dans la période actuelle, mais que ça l'a toujours été dans toute relation comme ça, à deux, et puis en plus qui prétend être une relation d'accompagnement. Je crois que c'est urgent, quelles que soient les circonstances, d'être vigilant là-dessus. Pour moi, la première chose aidante, c'est qu'il y a un cadre. Un cadre, c'est des choses très simples, c'est-à-dire un temps, un lieu, une référence. Que ce qui se dit dans cet espace-là, qui nécessairement doit être un espace intime, privé, ne soit pas non plus complètement la chose des deux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, il me semble qu'un des garants de toute emprise, c'est que l'accompagnateur puisse travailler sur ses accompagnements, sur ce que ça fait bouger pour lui, sur sa posture. Alors, il travaille de plein de façons différentes, avec un superviseur, avec son propre accompagnateur en formation, qui puisse mettre au travail sa propre posture de son côté. Je crois que c'est extrêmement important. Et puis, je pense que une autre chose importante, c'est de pouvoir de temps en temps se redire, je parlais de cadre, se redire des choses sur l'accompagnement. Par exemple, moi, une fois par an, je redis à la personne, obligatoirement, je ne laisse pas passer ça, si je peux dire, de refaire le point pour elle-même. Et le point consiste à se dire, est-ce que cet accompagnement m'aide à rencontrer le Christ ou non ? C'est ça la question. La question, c'est pas d'abord, est-ce que cet accompagnement me fait du bien ? Est-ce que mon accompagnateur est chouette ? Est-ce que dans l'année qui s'est écoulée, j'ai l'impression d'avoir gagné en liberté, d'avoir gagné en capacité de mettre au monde ma propre réponse singulière à l'appel du Christ. Quand je dis singulière, ça aussi, ça va être une chose très importante. C'est-à-dire, est-ce que l'accompagnateur promeut un modèle auquel l'accompagné se sent obligé de correspondre, auquel cas je crois que c'est vraiment urgent de fuir. Est-ce que l'accompagnateur a des réponses pour nous, toutes faites ? Je crois que l'accompagnateur, il est là pour être témoin, il est là pour épauler le questionnement de la personne. Il n'est pas là pour répondre, il n'est pas là pour savoir. Voilà quelques petits indices qui me viennent.
Alors on entend bien dans ce que vous dites que à quel point la liberté est un enjeu, grandir en liberté. Est-ce que finalement cet accompagnement, on peut dire, nous permet de découvrir notre vrai visage ?
Absolument. Quand vous dites le mot visage, là je trouve que c'est un très beau mot, mais quand vous dites le visage, immédiatement ce qui me vient comme contraire, c'est idole. C'est-à-dire, je crois que c'est exactement effectivement ce qui se travaille dans l'accompagnement. Comment je vais pouvoir laisser venir au monde mon vrai visage ? Et le vrai visage, on pourrait dire, c'est le Christ en nous qui cherche à naître. Mais ça nous demande tellement de renoncer à des tas de choses que nous poursuivons, même avec les meilleures intentions du monde, pour être quelqu'un de bien, pour ressembler à ceci, cela. Et ça va être souvent un très, très long travail de mise à nu, souvent un travail de dénuement aussi, pour pouvoir laisser advenir cette authenticité humaine-là. J'allais dire pour devenir davantage humain, parce que ça sera toujours ça la question. Et souvent nous, on se dit que c'est de devenir de plus en plus divin notre boulot, alors que je crois que c'est vraiment devenir de plus en plus humain. C'est ça notre vrai visage.
Est-ce que cet accompagnement, on peut en avoir un toute la vie, jusqu'au bout de la vie ?
Je crois. Je crois que c'est toujours entre nous que la vie se donne. Il y a des accompagnements officiels, peut-être parfois à la fin de la vie, il y a des accompagnements plus inédits, de passage. Mais il me semble que nous sommes des êtres de relation et que le visage de l'autre me fait naître à mon visage à moi et la parole, quand elle est authentique, me fait naître à ma propre parole. Oui, je crois.
Vous avez été aumônière d'hôpital, enfin aumônier plutôt, oui. En hôpital. Est-ce que c'est très différent l'accompagnement en fin de vie, en très peu de mots ?
Non, je crois que c'est pas très différent. C'est dans une précarité souvent plus grande, mais je crois qu'on fait la même découverte, c'est-à-dire que notre vulnérabilité est un lieu d'éclosion, est un lieu de fécondité, et peut-être on le découvre de façon un peu plus radicale, un peu plus, j'allais dire, spectaculaire à ce moment-là de la vie, mais je crois que c'est la découverte qu'on fait aussi dans l'accompagnement de notre vie en pleine santé.
Un grand merci Marie-Laure Choplin, un grand merci à tous d'être fidèles à 1000 questions à la fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Florence Châtel, en effet 1000 questions à la fois avec vous Florence, c'est tous les samedis, puis à retrouver en podcast. On peut vous écouter de façon illimitée en se connectant sur les sites de vos radios favorites, rcf.fr, Radio Notre-Dame. Restez à l'écoute. Dans moins de 5 minutes, l'invité culture. Nous évoquerons l'exposition Apocalypse hier et demain. C'est à découvrir à la BNF à Paris, la Bibliothèque Nationale de France. Jeanne Brun, la commissaire de l'exposition, sera avec nous pour en parler. On reviendra notamment sur l'étymologie du mot Apocalypse. Ça peut faire peur quand on l'entend comme ça. Et pourtant, son origine est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Ça sera dans quelques instants. Vous écoutez Radio Notre-Dame et RCF. Nous sommes le samedi 29 mars et il est 7h15.